Nous sommes tous là au complet. Et je vais tout de suite vous présenter les invités que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur l'antenne de QG. Et tout d'abord, Daniel Obono. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Vous êtes député France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Vous êtes actuellement en campagne pour votre réélection dans cette même circonscription. Et nous sommes ravis de vous recevoir sur l'antenne de QG pour la première fois. Également avec nous ce soir sur QG, Ali Diwara. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président et le cofondateur de l'association La Seine-Saint-Denis au cœur. Vous êtes candidat, vous aussi, à ces législatives. Dans le 93, dans la 4e circonscription, qui englobe des villes telles que la Courneuve, Stein, le Blanc-Mesnil. Vous vous présentez contre le candidat de la NUP, ou à côté en tout cas, je ne sais pas ce qu'il faut dire, vous nous préciserez tout à l'heure la nature du litige. Et également avec nous ce soir, je suis ravie de recevoir Amal Bentounsi. Bonsoir Amal.
Bonsoir.
Amal, vous êtes fondatrice de Urgence Notre Police Assassine, un collectif de familles de victimes tuées par la police. Votre propre frère, je rappelle en quelques mots l'histoire pour ceux qui l'ignoreraient, a été tué d'une balle dans le dos lors d'un contrôle de police à Noisy-le-Sec en 2012. Le policier qui a tué votre frère a été reconnu coupable 5 ans après les faits et il n'a jamais été radié de la police. Il est même devenu syndicaliste, représentant dans un syndicat de police, me semble-t-il.
Tout à fait.
Alors, nous sommes réunis ce soir pour évoquer, bien sûr, ces législatives qui arrivent, cette présidentielle qui vient de s'achever et la façon dont on a pu observer une recomposition du paysage politique dans les quartiers populaires à cette occasion. Après les trahisons du PS et les rancœurs créées par la période SOS racisme, on disait les partis et les dirigeants de gauche inaptes à séduire et à mobiliser les nouvelles générations issues de l'immigration. Même si l'abstention reste forte, les scores historiques obtenus par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2022 racontent toutefois une autre histoire. Dans les 10 communes les plus pauvres de la métropole française, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 50% des voix et plus de 60% dans beaucoup de ces villes, on y reviendra. Alors, c'est la question que nous posons ce soir, la malédiction serait-elle en passe d'être levée? Est-ce que la NUP, la nouvelle union de gauche et des écologistes, pourra transformer l'essai en juin prochain? Les écueils restent bien sûr nombreux et nous allons en discuter dès ce soir. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que QG est un média 100% indépendant, qui n'est adossé à aucun actionnaire ni à aucun parti et qui fait entendre des voix différentes. C'est ce qui nous permet d'organiser des soirées telles que celle-ci. Je vous invite donc à découvrir QG, le média libre, dès ce soir sur QG.media. Donc, je le disais à l'instant, Jean-Luc Mélenchon a réalisé des scores tout à fait impressionnants dans les quartiers populaires, encore plus impressionnants qu'en 2017. Seine-Saint-Denis, banlieue lyonnaise, quartier nord de Marseille, il a progressé de 15 à 20 points dans les villes de l'ex-banlieue rouge, telles que la Courneuve, 64%, Stein, 61%, Sevran, 54%. Je vous pose la question, Daniel Obono, puisque vous représentez ce soir la France Insoumise. Est-ce que, selon vous, cela signifie qu'un lien de confiance est à nouveau noué entre la gauche et les quartiers?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'ores et déjà d'un lien de confiance qui se serait renoué, parce que l'expression électorale... je pense depuis un certain nombre d'années assez fragile en fait. Je crois que les voix qui se sont exprimées n'appartiennent à personne en vérité. Elles se sont exprimées là cette fois après 2017. Effectivement, il y a un renforcement du score de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je crois parce que il y a eu d'abord un vote vital de survie par rapport à différentes problématiques, que ce soit la question sociale, mais aussi la question des discriminations. Et la voix de Jean Mélenchon à ce moment-là particulier du temps politique a été entendue comme celle en fait qui était du côté de celles et ceux qui étaient stigmatisés, celles et ceux qui subissent le plus la précarité, etc. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que c'est à ce moment-là et que pour renouer la confiance, il va falloir beaucoup plus, il va falloir reconstruire sur le long terme. Et comme vous le disiez par ailleurs, l'abstention reste très forte. On l'a fait un peu régresser dans certains endroits, mais reste très très forte. Et ça veut dire qu'en fait, il y a encore du boulot de mon point de vue et que justement, il ne suffit pas d'une expression électorale à la présidentielle. On va voir aux législatives si on peut le confirmer, et surtout sur la durée, quoi, parce que. Voilà, on est aujourd'hui dans un paysage politique assez éclaté. Il n'y a plus de blocs électoraux comme il y en a pu y avoir à une certaine époque, au siècle dernier littéralement. Et donc, ce serait bien présomptueux de notre part de penser que c'est un vote acquis de quelque manière que ce soit. C'est un vote qui reste à gagner et une confiance qui reste à construire de mon point de vue.
On ne vous entend pas.
On va faire un petit tour, non pas de table, mais d'écran sur cette question. Amal Bentounsi et Ali, comment vous interprétez voilà, ces scores tout de même notables réalisés par le candidat de la France Insoumise? Amal.
Alors,
Amal, pardon.
moi, je vais répondre à la question, à la question de la réconciliation. Telle qu'a été présentée l'émission. Et on n'est pas dans une relation amoureuse pour se réconcilier. Je pense que le mot n'est pas opportun. J'ai plus envie de poser la question, quelles sont les conditions d'une alliance durable, une alliance qui ne peut se concrétiser que sur des bases d'intérêts communs. Donc, la France insoumise et Mélenchon n'ont pas fait un pas vers nous, mais il faut rétablir la chronologie des faits. C'est nous qui avons transformé, ce sont nos frères déjà qui ont participé aux révoltes sociales de 2005, qui ont rendu visible cette violence qui s'est abattue dans les quartiers populaires à ce moment-là, et cette violence qui s'est abattue 15 ans plus tard sur les Gilets jaunes. Alors ce score, bien évidemment, que c'est un vote massif des quartiers, et notamment des musulmans, parce que la France insoumise, M. Mélenchon, a été très courageux, ça, parce qu'il faut en avoir du courage pour appeler que la police n'est pas au-dessus des lois, n'est pas au-dessus de la politique, et qu'on doit s'inquiéter de tout ça. Et je pense qu'on est dans un contexte où les gens ont peur, hein, au-delà de toutes les autres attentes, et je pense que Ali Diwara pourra en parler. Nous, sur la question des violences policières et sur la question de la répression dans les quartiers, pour nous, c'est très important que la France insoumise ait eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, on a appelé à voter pour Mélenchon massivement. Donc, je pense que c'est aussi le résultat de, au-delà de cet appel, mais de tous les quartiers, de tous les acteurs des quartiers qui ont appelé à voter aussi pour Mélenchon et de tous ceux qui se sont reconnus dans les prises de position politique très fortes qu'a eu Monsieur Mélenchon et la France insoumise à ce moment-là.
Alors, effectivement, il s'agit d'un électorat en temps normal très exigeant. car très échaudée hein, par des expériences depuis les années 80, où le vote avait été instrumentalisé, détourné par le Parti socialiste. Néanmoins, c'est vrai, vous le rappelez, Amal, en 2022, il y a eu des signaux extrêmement forts envoyés par des collectifs de militants de terrain. Je pense notamment à On s'en mêle, hein, 120 acteurs des luttes de l'immigration et des quartiers populaires qui ont appelé clairement à voter Mélenchon au premier tour, notamment le fameux MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, qui est un petit peu la matrice, l'inspirateur du comité La Vérité pour Adama, qui a appelé à voter Mélenchon, ce qui était loin d'être évident, hein, me semble-t-il. J'aimerais savoir, Ali Diwara, ce que vous en pensez. On va revenir hein, sur la situation électorale que vous connaissez en Seine-Saint-Denis, mais est-ce que vous reconnaissez à ce qui s'est passé au premier tour, quelques vertus tout de même?
Forcément, je me reconnais dans ce que vient de dire Madame Bounot et Amel. Sur le vote massif en direction du candidat de l'Union populaire, parce que avant même, quand bien même Mélenchon incarne sa personne et a fait quand même pas mal de boulot depuis un certain nombre d'années à gauche, voilà, ça faisait longtemps que les quartiers populaires, notamment les militants des quartiers, etc., ne se reconnaissaient pas à travers une figure particulière, quelle qu'il ou non, mais qu'on avait du mal à se reconnaître à travers une figure particulière, quand bien même il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais farouchement opposés. Cela dit, voilà, sur cette élection, pour reprendre les mots de la députée Obono, forcément, dans les quartiers populaires, il s'avère que voilà, c'était aussi un repli vers une personne, vers éventuellement un programme, mais au-delà même du programme, c'était vraiment une question de survie, parce qu'on a passé les 10 dernières années très clairement à se manger des droites par la gauche. Donc voilà, on n'a pas fini de nous en distiller, malheureusement. Vous parliez du Parti socialiste notamment. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du prisme national que représentaient les élections présidentielles, localement aussi, la gauche fait quand même pas mal de tort aux quartiers populaires, notamment à un certain nombre de collectifs, d'associations, de militants de quartier, d'activistes. Et ça, voilà, aujourd'hui, beaucoup se sont reconnus à la fois à travers la candidature portée par Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, mais de l'autre côté, ce n'était pas un blanc-seing. On n'a pas dit, voilà, on va voter pour lui car c'est l'homme providentiel. Non, on s'est dit qu'on avait des attentes et qu'on espérait à l'avenir pouvoir discuter, dialoguer avec notamment les cadres de la France insoumise un peu partout dans les quartiers. Parce que voilà, si on revient quelques mois en arrière, on se rend compte que les résultats de la France insoumise, notamment dans les élections partielles, locales, étaient clairement catastrophiques. Je prends de Bondy, je peux prendre aussi sur Paris. Voilà, les scores qui étaient réalisés dans des élections locales n'allaient pas dans le sens de ce qu'on a vu aux élections présidentielles. On peut reprendre même 2017, où Jean-Luc Mélenchon fait un score quand même important, mine de rien. Et finalement, ce n'est pas un score qui s'est concrétisé par la suite, malgré des élections, malgré 17 députés qui ont été élus au niveau de la France insoumise, mais on passait de 17-18% à 11%, je crois, de mémoire en 2017. Je pense que la donne aujourd'hui, elle a quand même un peu changé. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre dynamique, dans une dynamique où aussi les quartiers populaires et leurs acteurs, ou des personnes aussi qui s'intéressent de plus en plus à la politique, ont décidé aussi de sortir la tête de l'eau. Quand on voit aujourd'hui un certain nombre de candidatures qui sont portées à l'intérieur du NUPS ou en dehors, ça montre quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités, une conscientisation de la vie politique et de la chose publique. Et ça, je pense que plus personne ne pourra l'enlever au quartier populaire. Donc voilà, après oui, effectivement, il y a des collectifs qui ont appelé ici et là à voter, chose qui n'était jamais arrivée avant, pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire. Après, c'est des choses qu'il faut quand même, je pense, relativiser, parce qu'il y a quand même une subjectivité derrière, au-delà des 120 personnes. Vous comprendrez bien qu'il y a dans les quartiers populaires, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Aujourd'hui, on estime qu'il représente à peu près entre 10 et 15% de la population hexagonale. Et voilà, 120 personnes à côté de ça, c'est pas non plus la France, entre guillemets. Quand on pense, voilà, en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, quand on pense que voilà, la Seine-Saint-Denis a participé à hauteur de 266 000 votes exprimé en direction de Jean-Luc Mélenchon, ben ça indique quand même quelque chose. Voilà, on passait, vous le disiez à juste titre, de chiffres qui ont quasiment même doublé parfois, pas doublé, mais qui ont augmenté de 15 à 20 points ici en Seine-Saint-Denis. Je parle de la Courneuve où on est passé de 44% à 64%. Je ne pense pas que c'est lié au militantisme local. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait notamment par la France Insoumise. Je pense que c'est ceux qui ont fait très clairement la meilleure campagne, notamment numérique, qui sont allées directement vers les jeunes. Moi, j'ai vu des personnes voter qui, jamais de ma vie, j'aurais pu penser qu'elles iraient voter un jour. Elles sont parties voter. Oui. Et ça, voilà, ça change beaucoup.
Mais alors, je vous pose la question, Ali, et à tout le monde d'ailleurs. Justement, quand on voit des chiffres pareils et une augmentation pareille, est-ce que c'était un vote d'adhésion à l'égard de du programme, ou est-ce que c'était aussi un instinct de survie à l'issue d'une campagne, il faut le rappeler, même si on est en train de passer à autre chose, mais ça va nous revenir au visage un jour ou l'autre, qui a été à l'extrême droite par ses thématiques très longtemps, avec un challenger à Marine Le Pen inattendu, hein, Éric Zemmour, voilà, encore plus véhément et violent à l'égard des musulmans que la patronne du Rassemblement national, chose qu'on croyait difficilement possible. Est-ce qu'il y a eu une réaction de peur, tout simplement? Est-ce que les gens ont vu réellement leur avenir compromis?
Moi, je pense que... Excuse-moi, Amel. Moi, je pense que... En fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un vote de survie parce qu'on a été attaqué de toutes parts pendant 10 ans. Même plus, il y avait l'époque Sarkozy avant ça, mais voilà, quand on pense au PS des dernières années et Macron qui nous a fait croire qu'il était en train de renverser la table, bah, finalement, voilà, pendant une décennie, plus d'une décennie, bah, les populations les plus fragilisées, les plus discriminées, les plus stigmatisées, les plus amalgamées ont énormément souffert. Et donc, forcément, le vote de Mélenchon était d'un côté un repli, mais n'empêche qu'on ne peut pas lui enlever non plus le travail qui a été effectué, notamment par la France Insoumise, pas forcément dans les quartiers, mais surtout dans l'hémicycle pendant le quinquennat précédent, un travail vraiment de longue haleine, pour le coup, qu'on a bien entendu. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis ont quand même pas mal parlé à l'affect des personnes, des quartiers populaires, notamment, Amel Bentoussier le disait très justement, des musulmans notamment, puisque c'était très clairement le bouc émissaire préféré de nos institutions ces dernières années. Donc, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. Et en même temps, la France Insoumise a aussi profité de la déliquescence de la gauche dans son ensemble, de la gauche du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de cette gauche qui finalement, sur le terrain, en banlieue, comme je le disais tout à l'heure, bah, n'hésite pas elle aussi à avoir des pratiques et des agissements qui sont aux antipodes très clairement de ce dont on aspire ici notamment ici en Seine-Saint-Denis. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça, mais bien évidemment qu'il y a un vote de survie qui n'est pas forcément un vote d'adhésion, mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que tous les électeurs aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, moi je pense que beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ont au moins en tête une seule mesure du programme qui les a marqués et auquel, j'ai envie de dire, ils adhèrent quand même un peu. Donc voilà, c'est un peu ma lecture à moi.
Amal.
Alors, pour rejoindre les propos de Ali Diwara, oui, il faut en avoir du courage pour défendre les musulmans, de se positionner. Donc, c'est des actes politiques très forts qu'il a eu à ce moment-là, que ce soit sur la question des violences policières ou sur la question des musulmans. Nous, on l'a senti pour la première fois qu'on n'était pas instrumentalisé. Car les actes politiques de Mélenchon sont risqués. Il n'a pas hésité à les assumer. D'ailleurs, moi, j'ai pas hésité a appelé à voter pour lui. On est plusieurs familles de victimes, dont la famille Chouvia, la famille d'Amadou Koumé et les familles du collectif Urgence, notre police assassine. Maintenant, il faut aussi le dire fortement, ce lien est fragile. Maintenant, on attend qu'il tienne ses promesses, notamment contre des lois liberticides et sécuritaires, et je pense notamment à la loi contre le séparatisme. Et nous, les militants, parce qu'on est autonome, parce que moi, j'adhère à aucun parti, nous, les militants de l'autonomie, on n'a pas l'intention de rejoindre la France insoumise pour ma part, pour des raisons que je viens d'évoquer, même si, si à un moment donné, j'y ai pensé. Mais donc la confiance n'est pas rétablie. Et on a besoin, pour nous, il est important de rester à l'extérieur et de continuer à être le poil à gratter, en fait, tout simplement, si je peux m'exprimer ainsi.
Non, mais je pense que je partage beaucoup des éléments de l'analyse qui ont été développés ici. Je pense que dans tous les votes, il y a une part d'adhésion dans le sens où il y a quand même une campagne présidentielle et ceux et celles qui sont intéressés, même dans les derniers jours. On regardait ici et là, on regardait un peu les idées. Donc il y a comme pour dans tout l'électorat, des adhésions, y compris parce que ça a été dit sur beaucoup de données économiques, sociales, les habitants, les classes populaires dans l'ensemble ont vécu quand même un quinquennat extrêmement brutal, extrêmement violent à plusieurs niveaux. Et je pense que voilà, ce qu'on a porté répondait à ça, l'augmentation du SMIC. Sur les questions, par exemple, de la jeunesse, quand on dit qu'on va garantir un revenu, une garantie d'autonomie, etc., ça parle à toute la jeunesse et notamment celle des classes populaires. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une réaction immédiate à ce qui a été effectivement aussi de la stigmatisation, une campagne qui s'est organisée tout autour des axes thématiques de l'extrême droite avec la construction de la candidature Zemmour. Donc, il y a, je crois, voilà, l'ensemble de ces éléments. Comme dans tous les électorats, par ailleurs, hein, des catégories sociales, il y a certainement un mélange des deux. Mais je crois que c'est aussi plus largement sur… moi, en tout cas, l'intérêt, c'est de voir comment est-ce que ces ressorts-là, on les ancre et on les approfondit, parce que notre objectif pendant cette campagne, ça a été de faire reculer l'abstention, parce qu'on a eu cette analyse de se dire c'est dans l'abstention, c'est dans les millions de personnes qui ne vont plus voter pour plein de raisons, qui se sont dégagées de la vie politique, et en grande partie, c'est la majorité des classes, la majorité, c'est les classes populaires qu'on doit s'adresser. Et c'est ça qui peut faire la bascule au-delà, on va dire, des catégories engagés politiquement, etc., et qui s'autodéfinissent de manière très claire selon les lignes traditionnelles. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, parce que justement, renforcer l'adhésion, renforcer l'engagement sur un projet politique, c'est notre rôle, après tout, de militants et militantes politiques, et c'est notre responsabilité ensuite d'élus que de renforcer tout ça. Donc, je pense que c'est un travail aussi de notre part, et c'est une responsabilité de notre part à renforcer, à continuer. Et comme ça a été dit, voilà, je pense qu'il y a aussi un niveau d'exigence très fort de la part des citoyens et des citoyennes à qui, effectivement, on ne va pas la faire à l'envers et que on attend de voir aussi sur pièce très concrètement, parce que effectivement c'est quelque chose de fragile. Moi, j'en ai conscience et je pense qu'on en a tous et toutes à la France insoumise, et puis maintenant dans le cadre de la nouvelle Union populaire, conscience. Donc, l'adhésion, elle est encore à gagner, comme la confiance et dans les actes, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut que… C'est à ça qu'il faut qu'on soit à la hauteur. C'est ça qu'il faut qu'on…
Alors, pour penser au coup d'après, Bon, la nouvelle Union populaire écologique et sociale a été contrainte, on va dire, en conduite en tout cas à faire alliance avec le Parti socialiste, hein, le vieil ennemi, le parti que Jean-Luc Mélenchon entendait remplacer. Est-ce que, et j'inclus d'ailleurs Daniel Obono dans ma question, est-ce que ça vous a fait à tous un pincement au cœur? Parce que j'imagine que votre engagement à tous, bah, il s'est un peu fait contre ces gens-là quand même. Donc, bon, et puis de fait, il y a des militants qui sont, je pense à quelqu'un comme Xavier Mathieu, hein, qui a décidé de partir, de voilà, de retirer son soutien officiel à l'AFI à cause de ça. Donc, est-ce que c'est un sujet pour vous tous?
Clairement, clairement, c'est un sujet. Pour moi, c'est après, c'est mon avis, hein, mais c'est une trahison. Pour moi, je comprends pas. On a vendu, et notamment les militants insoumis ont quand même vendu ici et là le hashtag plus jamais PS. Pendant la campagne, on en a parlé. Après la campagne, on en a parlé. À peine 3 jours après la campagne, Mathilde Panot, pour la citer, disait que on reviendrait pas à la discussion. Le PS ne sera pas à la table des négociations et cette décision un peu collantesque est irrévocable. Et finalement, on les a amenés à la table et on leur a redonné un nouveau souffle en fait. Même si je peux entendre que voilà, c'est pas le PS de Delga, c'est pas le PS d'Hollande, etc. Moi, je pense que c'est quand même assez injustifiable. Je pense que c'est pour moi, c'est une trahison parce que voilà, on nous a vendu tout autre chose. Et moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture particulière, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, tout le monde croit en un certain nombre de discours, un certain nombre de discours portés par les cadres de la France insoumise, par les militants sur le terrain. Moi, j'en connais quand même un certain nombre, des jeunes qui ont quand même beaucoup de fougue et qui militent sincèrement et qui ont envie de faire changer les choses, etc. Et de se retrouver avec du Parti socialiste et tout ce que ça implique comme histoire et comme loi liberticide, islamophobe, raciste de ces dernières années et même pendant le quinquennat précédent là, qui vient de se terminer, bah forcément, on ne peut pas l'accepter sous couvert d'une union qui finalement, moi je le dis très clairement, pour moi c'est une union quand même assez de façade, voilà, qui permet d'arranger beaucoup, beaucoup de personnes, qui permet de leur redonner un second souffle, qui va remplir les caisses, parce que voilà, il y a un grand enjeu lié au financement des partis politiques. Et à partir du moment où on leur donne 70 investitures, dont les 30 sortantes, la preuve en est aujourd'hui. Ils sont, pour moi, c'est les grands gagnants de ces négociations, c'est le Parti socialiste, mmh. Même il y a terre à l'intérieur.
Daniel Obono, la parole est à la défense.
Non, mais moi, je comprends d'autant plus des arguments que, je veux dire que j'ai mis du temps à être à intégrer la nouvelle donne et oui, je fais partie de ceux et celles qui ont eu du mal quoi là-dessus, mais pas, en fait, je pense que moi, ce qui m'a convaincue dans tous les cas sur la stratégie, finalement, c'est le fait qu'on a clairement établi un centre de gravité politique sur un programme radical de rupture et que la direction du Parti socialiste, pour différentes raisons. Alors, on peut considérer que c'est de l'opportunisme ou de l'intelligence politique ou peut-être un peu d'adhésion ou de tout ce que vous voulez. Mais a compris, à un moment donné, après, pas simplement 2017, en croyant que 2007, c'était un coup comme ça de Jean-Luc Mélenchon, mais 2022, bah, la sanction des urnes et le fait que, enfin, il fallait rompre avec la ligne, sinon il disparaissait. Et pour moi, en fait, l'argument, c'est ça, c'est dire, et ça, c'est ce que nous, on a toujours porté, une rupture avec le social-libéralisme, une rupture avec la Hollandie, avec ce bilan-là. Et notre positionnement très clair, très tranché, les a amenés, parce que c'est eux qui sont venus. Nous, on n'est pas allé les chercher, justement, on n'est pas allé les chercher. On avait établi très clairement à qui on s'adresserait parce qu'on avait un périmètre de ce que portaient les uns et les autres et on considérait que la direction du Parti socialiste.
Daniel Obono, est-ce que je vous coupe une minute. Est-ce que ce n'est pas dangereux Est-ce qu'effectivement, une fois, admettons que l'AMUPS ait énormément de circonscriptions et donc que mécaniquement le PS en gagne un grand nombre, est-ce que ce n'est pas dangereux dans votre stratégie politique de les laisser survivre comme ça dans le champ dont ils
étaient? Oui, mais moi, je crois pas que nous soyons. Alors, on est en position de force, ça c'est sûr, mais parce qu'on a convaincu aussi, parce qu'on a montré que c'était possible de tenir une ligne de radicalité et de rupture pendant ces 5 dernières années, ça a été dit. Et que c'est ça qui a payé d'une certaine manière. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on est ou les faiseurs de rois ou je ne sais pas quoi en vrai. Si y compris nous, on est en incapacité de montrer que c'est possible de mettre en œuvre un tel programme, etc., ben voilà, ça s'appelle la politique et ça s'appelle le fait qu'il y a des marges de manœuvre pour des stratégies. Moi, je pense qu'il n'y en a pas en fait dans la période. Je pense que justement, ce qu'a montré la Macronie, c'est que voilà, c'est que quand tu dis que tu fais ni gauche ni droite, que tu es dans un espèce de ni le centre, centre gauche et centre droite, tu fais de la droite, quoi. Tu fais une politique de droite, voilà. Et donc, y compris, il a fermé l'espace de ce point de vue-là à cette espèce de ventre mou et obliger les uns et les autres à choisir leur camp d'une certaine manière. Et je pense qu'une partie du Parti socialiste n'attend que l'opportunité pour rejoindre Emmanuel Macron, la meilleure opportunité possible. Donc, en fait, c'est pas tant nous, c'est que c'est d'abord les électeurs et les électrices qui ont tranché et qui continueront, je pense, à le faire, qui ont ce pouvoir-là souverain de déterminer. Et puis, la question est, et pourquoi faire cette, pourquoi accepter cette alliance au final? D'abord parce que ils ont compris et ils ont assumé une rupture. Voilà, quand on revient sur les points du programme qu'on a mis sur la table, et après on fait de la politique, on n'est pas là en fait. C'est pas une question de revanche ou de naïveté. C'est voilà, on dit aujourd'hui on a le rapport de force, on fait quelque chose qui a jamais été fait dans notre espace politique depuis très longtemps, y compris au niveau européen, c'est-à-dire reconstituer une force d'alternative et pas d'alternance, dont le centre des gravités est sur la radicalité. Bah oui, on dit ceux et celles qui sont d'accord sur ces éléments-là, voilà, on va faire ensemble, y compris on se donne l'objectif d'être majoritaire, parce que c'est ça aussi. Et je pense que ça, pour moi, c'est ça c'est pas un calcul politicien au sens d'un partage des circonscriptions. Alors il y en a peut-être qui le voient comme ça. C'est une stratégie d'être majoritaire et de gouverner le pays et de réaliser ce qu'on a expliqué aux gens que c'était nécessaire et urgent, gouverner différemment. Et donc, dans ce cadre-là, parce que c'est ça la stratégie, oui, il y a besoin, en fait, de rassembler. Donc, et on est en position de force, et cette force, elle implique une responsabilité, c'est d'aller au-delà de nous-mêmes, d'aller au-delà, y compris de celles et ceux, et ce n'est pas obligatoirement le Parti socialiste, là, hein, qui nous ont coûté le deuxième tour, qui continue à s'avoler à planche. On n'est pas naïf là-dessus, mais nous, on considère que, en fait, c'est les gens, ils feront la différence, en fait. Ils vont voir la différence entre ceux qui font le boulot, ceux qui sont cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et puis ceux qui, en fait, sont juste dans une posture politicienne. Donc, les gens qui trahissent l'accord, je pense et j'espère bien qu'ils seront sanctionnés dans les urnes. Donc voilà, je pense que c'est l'objectif, c'est d'être majoritaire. L'objectif, c'est de répondre à ce pourquoi on a fait campagne pendant la présidentielle, c'est-à-dire il y a une urgence sociale, démocratique, écologique, et il faut prendre le pouvoir pour changer la vie très concrètement des gens. Et pour ça, il faut être ensemble. Voilà, il faut fédérer tous celles et ceux qui veulent le faire. On le fait sur une base, je pense, claire, radicale. Et ceux qui sont prêts à le faire, allons-y, quoi. Sans, encore une fois, sans naïveté. Et puis en disant, par ailleurs, on continue à le dire, hein, c'est la mobilisation sociale qui permettra de maintenir le rapport de force. Et quand je dis mobilisation sociale, c'est les luttes, les grèves, mais aussi l'existence de forces. De force autonome, l'existence de celles et ceux qui continueront à dire mettre la pression pour qu'on aille au bout et qu'on respecte nos propres paroles. Et pour le coup, pour moi, c'est l'élément, en fait, c'est la contrepartie, j'allais dire, la nécessité qu'existe ce rapport de force sociale-là, et notamment sur les questions aussi importantes que la lutte contre les violences policières, les discriminations, le partage des richesses. c'est ça qui va permettre à tout le monde de rester, de respecter le cadre politique, quoi.
Alors, quand même, vous, oui. Ma question, vous comprenez le trouble hein, qui s'exprime d'ailleurs ici ce soir hein, de, chez certains militants et pas que électeurs, parce que c'est vrai que bah, voilà, des Olivier Faure, des Fabien Roussel, on les a vus précisément à une manifestation en face de l'Assemblée nationale en défense de à l'appel de syndicats policiers, très à droite, hein, c'est ce qui est un peu redondant. Et ce n'était pas vraiment la place de secrétaires généraux de partis de gauche. Donc, j'imagine, Amal Bentoutsi, que quand vous voyez un spectacle comme ça, c'est quand même compliqué à accepter.
Oui, c'est très compliqué, d'autant plus que la gauche a des précédents qui sont lourds de conséquences, notamment pour nous, quoi. Pour nous, pour les familles de victimes, et je pense notamment aux lois liberticides et sécuritaires qui ont été promulguées pendant les derniers quinquennats de la gauche et sous François Hollande et Manuel Valls, et notamment l'article L435-1 qui a permis aux policiers l'assouplissement de l'usage des armes à feu et qui a rendu possible à ce que les policiers, au même titre que les gendarmes, puissent user de leurs armes lors d'un contrôle routier. Le constat, il est dramatique puisque depuis 2017, on recense un nombre très important de victimes. Et ce n'est plus seulement les jeunes des quartiers populaires qui sont touchés par cette loi, ça il faut le rappeler. Ce ne sont plus les gens uniquement des quartiers populaires, mais c'est toutes les personnes qui seraient amenées à commettre un délit de fuite ou pour quelle que soit la raison, peuvent être abattus. Et on l'a vu le soir de l'élection présidentielle, deux frères ont été abattus. Et on a eu un silence radio sur cette affaire. Et je me demande comment on ne s'est pas mobilisé assez, je trouve. Puisque tout de suite après, on a les syndicats policiers qui ont demandé la présomption de la légitime défense dans ce genre de cas. Et le risque pour nous, parce que nous, depuis 2010, on le constate déjà avec la loi L435-1, donc la réforme sur la légitime défense, la sécurité publique, donc c'est la loi sur la sécurité publique. Donc, on y arrive petit à petit. Donc, Montesquieu disait… c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est amené à en abuser. On en est là aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que la France insoumise continue à avoir des actes politiques très forts. Et ce que je regrette aussi, c'est, oui, bien évidemment, qu'il y a des acteurs sociaux dans les quartiers et qu'on n'ait pas fait appel à ces gens-là pour parce que la France insoumise, on va pas se voiler la face, elle a été élue là lors de ces dernières élections, notamment par la voix des quartiers populaires et des musulmans. Ça, il faut le rappeler. Et je trouve regrettable que les gens qui font un travail formidable, je pense notamment à Hind de Espoir Création, qui est une association, à Lydie Wara aussi, qui fait un travail de terrain, qu'on n'ait pas fait appel à ces gens-là et qu'on a été salliés avec des gens qui nous ont trahis, nous les quartiers populaires, nous les musulmans, parce qu'il faut le rappeler. Il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui se sont organisés et qui ont lutté, et notamment à tous ces acteurs sociaux qui sont sur le terrain et à qui on ne donne pas la voix aujourd'hui, alors qu'ils sont là, ils sont présents et ne demandent que ça. Et je trouve ça véritable, vraiment.
Alors, merci Amal là, d'en venir au litige précisément hein, qui demeure et qui est encore profond. Alors, c'est vrai que votre position Ali l'exprime tout à fait, hein, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, vous vous présentez en candidat autonome, hein, hors de l'alliance de gauche, en Seine-Saint-Denis, dans la quatrième circonscription, et notamment sur le réseau Twitter, vous avez souligné que ce qui semblait extrêmement choquant à vos yeux, c'est que le département de la Seine-Saint-Denis avait à lui seul contribué à 3,4% au niveau national des suffrages de Jean-Luc Mélenchon et qu'on n'en voyait pas la trace dans les investitures pour les législatives, que la confiance accordée par les partis de gauche, même la France insoumise, hein, qui évidemment n'a rien à voir avec le PS sur ces questions-là, mais ne montrait pas une confiance à l'égard des acteurs de terrain. Alors, voilà.
Oui, bah c'est pour moi, le tweet, il était très clair et je pense que personne ne contredira. C'est qu'à un moment donné, le chiffre des 3,4%, c'est la représentation, le suffrage exprimé par les habitants de la Seine-Saint-Denis en faveur du candidat Mélenchon et que de l'autre côté, cet engouement ne s'est pas traduit par des actes forts, sincères, authentiques, en direction de ces mêmes quartiers. Je ne parle pas pour moi directement, parce que moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture particulière, mais je parle pour d'autres candidats. Je pense notamment à Sana Seyitouli, à Sergi Pontoise, qui finalement va faire face à Aurélien Taché, un ex-LaREM, alors que la personne est engagée depuis des années et des années, citoyennement, autonome, financièrement aussi, de manière indépendante, qui a milité pour la candidature du candidat Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait des scores quand même assez importants. C'est quelqu'un qui est reconnu sur place. Mais il y a plein d'autres candidats comme ça qui vont militer, qui vont se présenter aux élections législatives. Et aujourd'hui, quand on voit la représentation, et du moins la représentativité de la représentation nationale qui est donnée des députés, notamment insoumis, notamment en Seine-Saint-Denis, ça interpelle quand même, tant au niveau de l'âge, où aujourd'hui on a une moyenne d'âge de 55 ans des députés sortants, des origines, dans le sens où moi je crois beaucoup en l'ancrage et non au parachutage. Quand on voit que ces députés sont pour 85% pas originaires du département, donc moi j'ai toujours en tête que ce département-là est un eldorado des élus. Quand on voit ces élus aussi qui cumulent les mandats, je pense notamment, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit, à une Clémentine Autain qui se préserve sa place au conseil régional alors qu'elle dénonçait le cumul des mandats, alors que ça fait partie aussi de la charte de la France insoumise. D'un de leurs articles, ils ont quand même notamment, ils l'ont exprimé lors des élections, les dernières élections européennes, où les candidats ne devaient pas cumuler, ou en tout cas étaient amenés à ne pas cumuler s'ils voulaient être candidats, et qu'aujourd'hui, en fait, on voit qu'ils se sont plus arrangés entre eux, parce que tout à l'heure, la députée Urbono disait que non, c'est pas un partage, si, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunisme, et c'est un partage, c'est un gâteau qu'on s'est partagé, et à la fin, s'il reste un peu de chantilly, on la distribue un peu aux uns et aux autres. Moi, je considère que, après, on n'a pas signé de blanc-seing, il n'y a pas d'accord avec les militants des quartiers, mais à un moment donné, quand Jean-Luc Mélenchon, quelques mois avant l'élection, dit que si les quartiers populaires votent, on sera au second tour, et que finalement les quartiers populaires ont décidé de lui accorder massivement leur confiance, en tout cas sur un instant T, finalement, moi, encore une fois, je trouve que c'est quand même assez hallucinant quand on connaît le pouvoir qui lui a été donné que d'agir ainsi. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait que oui, c'est une stratégie, c'est de la politique, ceci, cela, d'accord, mais entre les deux tours, il y a eu aussi une stratégie qui a été longtemps ce qui a été proposé par la France Insoumise, c'est-à-dire de faire appel, de consulter les citoyens. Entre les deux tours, on les a consultés, mais là, on ne les a pas consultés pour savoir est-ce qu'ils étaient OK ou non pour s'établir dans une perspective d'alliance avec les partis qui clairement nous ont trahis. Moi, je ne parle pas forcément de la France Insoumise, mais le PS, Europe Écologie Les Verts, le PC localement, et aujourd'hui, quand on voit les politiques publiques qui sont appliquées en Seine-Saint-Denis notamment, parce que c'est le département que je connais, notamment un département socialiste, majoritairement socialiste, socialiste, socialo-communiste, avec une austérité forte, notamment en direction des plus précaires, notamment au niveau de l'habitat public, pleine commune habitat, Seine-Saint-Denis habitat, où tous les ans on augmente les charges, les loyers, et que les gens n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau, et ben forcément on se pose des questions. C'est quoi ce genre d'accord? Donc oui, on est considérablement déçus. Et quand je parle du parachutage, que ce soit un David Guiraud qui est parachuté à Roubaix, alors que Roubaix, c'est quand même connu pour être une ville militante, une ville qui fait de la défense des services publics quelque chose de très important. Quand je pense à Roubaix, je pense à Cergy, je pense notamment aussi à Paris. Voilà, il y a des parachutages qui vraiment interpellent.
Alors Daniel Obono, vous n'êtes pas le porte-parole de la France Insoumise, mais enfin, c'est vrai que les parachutages de candidats perçus comme pas légitimes sur le terrain, comme bobos, comme ceci, cela, créent énormément de rancœur, hein, on le sait. Mmh. Hein, Ali vient de citer quelques cas, il y en a beaucoup d'autres, hein, et on pourrait aussi citer le cas de Bagnolet par exemple, mais qu'est-ce que ça traduit selon vous? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même une difficulté persistante à faire confiance aux acteurs de terrain?
Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Moi, sur l'argumentaire sur le parachutage, je ne suis pas d'accord avec la logique, parce que je crois qu'une élection comme une élection législative, il y a différentes formes de légitimité politique, militante, et bien sûr que l'ancrage local est important, y compris la reconnaissance des citoyens, mais là, on parle d'une élection nationale. Et de ce point de vue, la vérité, c'est que 95% du boulot qu'on fait porte sur des questions nationales, pas sur des questions locales. L'idée que il y aurait dans cette élection, je ne parle pas des municipales ni des régionales, etc. Là, je pense que c'est ça le paramètre principal de mon point de vue. Mais là, on parle d'une élection nationale où on est élu sur une circonscription, mais on n'est pas l'élu de la circonscription, on est élu de la nation. Je crois que pour moi, l'argument, je ne dis pas qu'il est, il n'existe pas, hein, sur le fait qu'il y a des militants ancrés qui ont une légitimité très forte et qui permettent y compris de mobiliser l'électorat pour aller voter, ça compte. Mais le profil de militants politiques qui ont une expérience peut-être dans d'autres territoires, qui ont une visibilité nationale, voilà, compte aussi. Et donc, de mon point de vue, je pense que c'est un mauvais argument, celui, même si j'entends un certain nombre des critiques et que c'est tout à fait légitime que les militants locaux se posent des questions. Et d'ailleurs, je veux juste rappeler que nous, on a eu, au terme de la répartition, un peu plus de 300 circonscriptions, des candidatures dans 300 circonscriptions. Enfin, la très grande majorité de ces candidatures, elles sont issues des propositions des groupes d'action, des chefs de file qui ont été confirmés. Donc on parle de parachutage de profils nationaux connus, etc. Mais c'est pas la majorité. Mais il n'empêche, moi j'assume politiquement de dire oui, quand il y a des figures, des cadres, des dirigeants nationaux, oui, en fait ils ont aussi une forme de légitimité, et surtout le boulot. Ce dont il s'agit, c'est un travail national, c'est pas un travail local, même s'il faut faire le travail en circonscription. Bref, donc ça c'est une partie de l'argumentaire, mais j'allais dire c'est une discussion un peu plus générale sur la conception qu'on a, y compris l'élection législative, ce qu'on attend du député, parce que moi j'ai aussi été confrontée à ça, le fait d'être une nouvelle députée dans un endroit où le précédent était député et maire. Et où en fait quand les gens y parlaient aux députés, en fait c'est le maire qui répondait et qui pouvait agir concrètement localement, et ça a vraiment créé de la confusion en fait, alors qu'en fait en tant que député sur le niveau local on a vraiment très peu de leviers. Donc voilà, bon, ça c'est une discussion un peu générale, on peut être d'accord ou pas, mais ça j'entends les arguments. L'autre dimension où je reconnais pour le coup mais le fait qu'on est aussi les héritiers de cette longue histoire de la gauche, même si on a assumé et on a défendu une rupture avec les politiques qui ont mené dans les derniers quinquennats, les politiques qui peuvent continuer à être menées aussi à des niveaux de municipalités, de conseils régionaux, etc., de gestion de l'austérité. Et on est aussi le produit de cette histoire-là avec ses limites. Et c'est vrai que moi, c'est un des regrets qu'on n'ait pas été plus loin et qu'on n'ait pas renforcé, en tout cas à l'occasion des législatives pour le moment, parce que je pense que c'est pas rompu non plus. Moi, j'ai travailler à ce que on crée ce lien pendant la présidentielle avec le réseau On s'en mêle et j'ai trouvé que j'étais très très heureuse et très honorée que tous ces militants historiques nous accordent leur confiance et prennent position. Donc c'est quelque chose que je prends pas là aussi pour acquis et dont je me rends compte que c'était un engagement fort. Et je regrette que voilà un certain nombre d'entre elles et eux n'ont pas pu être reconnus comme il fallait, notamment à travers les questions des législatives. Donc ça, c'est oui, je pense que c'est aussi une des limites qu'on n'a pas réussi à dépasser pour différentes raisons, parce que c'est vrai que dans des élections législatives notamment, ben, on a des mouvements, des organisations politiques qui vont investir leurs dirigeants politiques, leurs cadres locaux dans la grande majorité. Et on voit bien que le divorce, enfin, je ne sais pas si on peut parler de divorce, mais la séparation entre la gauche politique organisée traditionnelle dont nous sommes issus, même si nous sommes en rupture avec ça, et les secteurs politisés des quartiers populaires, signifie que voilà, on est peu représentatif, on n'a pas une représentativité de ce à quoi on aspire par ailleurs, parce que la question de, on a beaucoup insisté sur la constitution d'un bloc populaire qui fait l'alliance entre des classes populaires et des classes moyennes, etc. Et on est plus représentatif d'une classe moyenne, voilà, classe moyenne sup, blanche, économiquement précarisée des fois, mais avec un certain capital, en tout cas symbolique, etc., plus que représentatif des classes populaires. Et en plus, quand je parle classe populaire, je parle aussi bien des classes populaires urbaines que dans les campagnes et autres, quoi. Donc oui, je crois que ça traduit ça, cette limite, ça traduit les limites un peu structurelles de nos mouvements et donc de ce sur quoi il faut qu'on travaille. Et je pense que c'était évoqué tout à l'heure la faiblesse de notre ancrage local et la faiblesse de nos résultats aux élections intermédiaires. C'est voilà, c'est à la fois la cause et la conséquence de tout ça. Ça veut dire que on a cet enjeu qui finit là-dessus vraiment. Pour moi, c'est pas juste une question sur le moment tactique. Pour moi, c'est un enjeu stratégique, parce que effectivement, si on dit qu'on veut consolider un bloc populaire, ben ça veut dire voilà l'ancrer. Sociologiquement, culturellement et vraiment que soit représenté et représente ce bloc populaire les personnes concernées en premier lieu. Donc ça, c'est un des grands chantiers qui nous reste à faire et là-dessus, je le redis, l'existence, y compris, moi je salue le fait qu'il y ait des candidatures autonomes, parce qu'en fait on n'a pas non plus, comme je disais, c'est pas la chasse gardée en fait, hein, l'élection. Moi je suis heureuse qu'il puisse y avoir cette alliance, je pense que c'est un pas significatif, mais ça ne veut pas dire que du coup on a tout aspiré et qu'il n'y a plus d'initiatives citoyennes et démocratiques, heureusement. Et je pense que ces candidatures-là, autonomes, enfin, pour autant qu'elles sont sur des bases, on va dire, proche des nôtres, et on ne parle pas de la droite ou autre, en fait, elles vont participer aussi peut-être à bousculer et à prendre en compte ces interlocuteurs et interlocutrices avec lesquels peut-être on sous-estime ou qu'on n'estime pas à la même valeur qu'avec effectivement les forces traditionnelles comme le PC, le PS, etc. Donc moi, je salue plutôt ce type d'initiative qui va, j'espère, permettre que on se retrouve à nouveau peut-être dans un dialogue plus équilibré et que voilà quoi. Après, moi, c'est vrai que moi je fais campagne pour qu'on soit majoritaire et qu'on gagne et que pour mettre en œuvre notre programme, il faudra le faire avec tout le monde. Et donc pour moi ça reste des alliés, des alliances potentielles à construire et à reconstruire et à renforcer quand on a pu les maintenir, parce qu'on l'a quand même fait aussi sur quelques endroits. Tout n'est pas non plus passé à la trappe, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une des limites, on va dire, de la séquence pour le moment.
Alors, Ali, vous vous retrouvez dans une situation, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur la situation particulière que vous vivez en Seine-Saint-Denis, puisque vous vous retrouvez, face, d'après ce que j'ai compris, face à deux candidats différents du Parti communiste français, dont l'un est adoubé par la NUPES et l'autre est un dissident. Donc, vous serez au minimum trois candidats de gauche. Voilà, qu'est-ce que ça dit en fait de la situation sur le plan local, au-delà des questions d'ego et d'individu?
Bah, sur le plan local, mais quand même, je vais répondre parce que j'entends que la France insoumise assume le fait que assume le parachutage, très clairement, assume le parachutage au niveau national parce qu'elle estime que le député est représentant de la nation, mais quand il faut chercher les voix, là, il n'y a plus de représentants de la nation. On va bien sur la circo, on va bien voir les partenaires et les militants locaux et les acteurs locaux, etc. Et je trouve que c'est un peu hypocrite de leur part parce qu'à un moment donné, on nous parle à longueur de temps de 6e République, etc. On nous parle de changement du paradigme institutionnel, etc. Et je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de beaucoup de militants. Je repense à Roubaix, je repense à Cergy, je repense ici en Seine-Saint-Denis. Je trouve que c'est pas très correct. Mais au-delà de l'enjeu du parachutage, je pense qu'il y a aussi un enjeu de représentativité. De la population. À un moment donné, je ne veux pas être méchant, mais quand je vois que 85% des élus en Seine-Saint-Denis, députés sortants, n'en sont pas originaires, qu'il n'y a que trois femmes là-dedans sur les 12 et qu'ils ont une moyenne d'âge assez importante, alors qu'on est le département le plus jeune de France métropolitaine, ou encore qu'il y a, excusez-moi de l'excès, mais un noir député, en plus l'AREM, sur le département, alors que tout le reste ne représente absolument pas la diversité. On nous parle souvent de ville-monde, de département-monde et compagnie. Je trouve ça excessivement hypocrite, mais j'entends le positionnement de la France insoumise. Et voilà, moi j'en ai marre de servir... En tout cas, pour la population, je pense qu'on en a marre de servir de variable d'ajustement, de terreau pour cette gauche-là. Et je pense qu'à un moment donné, j'entends qu'on salue les initiatives locales, et c'est très bien. Je pense qu'à un moment donné, il faudra créer des ponts parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même dénoncer. Ensuite, pour revenir, pour répondre à la question, oui, ici, sur la circonscription 93-04, donc en Seine-Saint-Denis, donc pour les villes de la Courneuve, Stains, Dugny et Le Blanc-Mesnil, on a une situation assez particulière. On a deux candidats qui se revendiquent du mélanchisme, deux candidats qui usent du visage de Jean-Luc Mélenchon sur leur tract, un qui en use au passé en disant qu'il m'a soutenu en 2021 et qui cumule les mandats, et une autre qui est sortie du bois tout récemment, alors qu'elle était dans sa retraite. Voilà, donc une situation assez ubuesque, assez cocasse, et qui en dit long sur le fait que non, on n'est pas des candidats qui souhaitent représenter la nation, ni même le peuple. En fait, on pense qu'à soi, qu'à sa poche. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. On pense à préserver les intérêts des barons locaux, et c'est ça qui joue ici en Seine-Saint-Denis et notamment sur ma circonscription. Donc, autrefois, on m'aurait dit que si j'avais candidaté, comme ce fut le cas en 2021 aux élections départementales, on faisait la réflexion de diviser la gauche. Ben là, en fait, on a un maire sortant qui a été candidat en 2020, qui a été candidat en 2021, qui est candidat en 2022, qui sera peut-être candidat en 2023 au sénatorial ou peut-être en 2025, je ne sais pas, qui se présente, alors que ce n'était pas ce qui était prévu à la base, contre une ancienne adjointe qui, elle, reçut le soutien de la NUPES, manifestement. Mais voilà, les deux usent chacun de leur... Leur propagande électorale avec Jean-Luc Mélenchon en effigie. Voilà, moi je pense que ça va créer beaucoup, beaucoup de confusion, et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, tant mieux pour le citoyen que je suis qui espère pouvoir passer dans ce petit trou de souris et espère transformer l'essai avec toujours avec la même chose que disait Madame Ogono, c'est-à-dire un programme de rupture, un programme foncièrement ancré à gauche qui va lutter contre les injustices sociales, qui va, contrairement à ce que vous disiez, moi j'ai vraiment envie de réancrer le rôle du député sur le territoire, sur la circonscription, avec vraiment une véritable proximité du député, notamment dans les affaires locales, parce que je pense que c'est ce qui manque aussi beaucoup alors que le député aujourd'hui a une visibilité qui ne trompe pas, quand bien même j'entends les combats nationaux qui doivent être portés en groupe, et pas individuellement, mais vraiment collectivement. Mais voilà, en Seine-Saint-Denis, ici dans la 93-04, on a une situation qui n'existe nulle part ailleurs à ma connaissance. Même à Vénissieux, on a changé la situation, on a la maire qui a décidé de se retirer. Ici, ben, on a deux candidats communistes, un qui est investi par le parti, l'autre non, mais les deux se revendiquent de Jean-Luc Mélenchon. Et on a une candidature citoyenne, une candidature de l'AREM, une candidature de droite et une candidature autonome. Voilà.
Alors, vous me tendez une perche pour parler de cette situation pénible, puisque vous évoquez la situation à Vénissieux. Je voulais quand même qu'on évoque ce soir, hein, bien sûr, l'affaire Tahabouaf, qui est tout de même, me semble-t-il, mais vous allez peut-être démentir, en train de coûter très cher à la France insoumise et à la NUPES hein, en général. L'investiture du jeune journaliste à Vénissieux avait suscité de vives tensions, hein, puisque même Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon s'étaient un petit peu affrontés à distance sur cette question. Elle est aujourd'hui évidemment largement exploitée par les médias, par l'extrême droite et par une partie de la gauche aussi. Moi, je voulais avoir votre point de vue sur l'impact de cette affaire, parce que c'est vrai que Tahabouaf était vraiment un symbole pour toute voilà, une jeunesse qui est en proie aux violences policières. Est-ce que c'était, Daniel Obono, est-ce que c'était une bonne chose, bah, justement, ce parachutage d'un très jeune militant inexpérimenté sur une zone de friction forte hein, entre le PC et la France insoumise. Est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé exposé publiquement à d'incroyables quantités de haine, puis d'un seul coup abandonné à son sort pendant les conditions qu'on sait? Quelle leçon vous tirez de cette affaire en fait?
Ah, moi, je le redis, on peut en débattre à nouveau sur la question du parachutage, mais je reviens hein, sur. Je vais répondre sur le cas précisément de la candidature de Tahabouaf, mais je pense qu'il faut aussi le dire aux gens, parce que moi, c'est mon expérience en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du terrain, il ne faut pas faire de l'ancrage, faut pas, et j'espère en faire autant que possible localement. Mais ce n'est pas vrai qu'en tant que député, on a, et ça c'est peut-être un problème, mais après il faut choisir. Si on dit que le député il a aussi du pouvoir local, et ça confond les statuts, et je suis pas sûre que, en tout cas moi c'est pas mon modèle par exemple sur la 6e République, je suis pour qu'il y ait les élus locaux, il y ait les élus régionaux, qu'on ait du pouvoir, qu'on redonne plus de pouvoir par ailleurs aux élus locaux, etc. Mais que voilà, le député c'est pas vrai, on peut être de proximité, aller tous les jours sur le marché et rencontrer les gens, mais en vérité, le pouvoir on l'a à l'Assemblée. Donc pour le cas de la candidature donc de Tahabouaf, comme celle d'autres, c'était pas la majorité. Encore une fois, la majorité des chefs de file de France Insoumise ont été confirmés dans le cadre de la Nouvelle Union Populaire, et ce sont des gens qui ont été désignés localement, etc. Mais c'était un profil très intéressant parce que avec une expérience professionnelle, journalistique et puis politique militante et qui aurait fait un représentant pour les habitants et habitantes de Vénissieux, qui a été et ça je crois que on l'a dit et clairement on s'est opposé à la campagne raciste dont il a fait l'objet, ça c'est clairement et ça a été dès le début, et c'était bien avant d'ailleurs cela, parce que c'est depuis le tout début du quinquennat et depuis son rôle dans l'affaire Benalla et ses mobilisations dans le cadre des luttes contre les violences policières, ça a été la bête noire et de la Macronie et de toute la fachosphère. Et donc, moi, j'assume et on a assumé de ne rien lâcher là-dessus. S'il n'y avait eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire des signalements de violences sexuelles à son encontre. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette procédure qui a été mise en place au sein de la France insoumise, qui, je crois, est certainement perfectible, mais correspond aussi au travail voilà, d'associations. Et on s'est beaucoup, on a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'associations pour mettre en place ces procédures de recueil de la parole de victimes pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes en notre sein, et qui signifiait que nous ne pouvions pas investir. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été proposé et qu'il n'était pas issu de Vénissieux, ni avec le fait que tel ou tel personnalité de gauche on rejoint la campagne de stigmatisation dont il faisait l'objet. Son investiture a été remise en cause parce qu'il y a eu ce signalement. Et moi, je trouve que il y a une cohérence à ne rien lâcher sur les questions de lutte contre le racisme et à ne rien lâcher non plus sur la question de la lutte contre les violences, l'écoute de la parole des femmes et d'avoir des mesures conservatoires nécessaires et d'être exemplaire sur les deux. C'est pas simple, ce sont des situations très délicates, très difficiles et douloureuses à gérer, mais je remercie énormément les camarades de cette cellule qui ont fait ce travail-là, parce que oui, c'est pas évident, certainement perfectible, mais on a assumé nos principes et nos valeurs dans ces deux cas-là, contre le racisme et la stigmatisation dont tu as été l'objet, et elle a été sans discontinuer, et on l'aurait soutenu jusqu'au bout, et il aurait été candidat, et je pense qu'il aurait eu des chances d'être élu, si ce n'était ce signalement qui nécessitait aussi que son investiture soit remise en cause. Donc, je ne sais pas si ça fragilise, je ne sais pas. Oui, c'est un battage médiatique et une obsession sans fin, mais comme tous les sujets qui servent à parasiter notre propos, etc. On a connu ça. On sait que c'est aujourd'hui l'épouvantail qui est agité. Moi, je crois que les gens, au bout d'un moment, y compris les citoyens et citoyennes de Vénissieux, au-delà, ils veulent savoir effectivement qu'est-ce qu'on va défendre. Le député ou la députée qui va être élu défendra-t-il ou elle des mesures pour changer leur vie. Et que on a connu ça toute la campagne, justement, les obsessions, les barrages médiatiques. Et ce qui a tenu, c'est notre programme, nos principes, nos valeurs, qu'on est cohérent là-dessus. Et pour le coup, moi, j'ai rien à retirer dans ce qui a été fait dans les deux cas, dans les deux positions. C'était ça qu'il fallait faire.
Non, mais c'est évidemment, ce n'est pas à vous, Daniel Obono, qu'on va apprendre ce que c'est qu'être la cible de l'extrême droite et un objet obsessionnel chez tous ces gens-là. Parce que je crois que vous avez, vous, État à Bois, vous avez vécu à peu près la même chose. Voilà, voilà, des attaques littéralement immondes et d'abondance. Mais juste pour s'arrêter un moment sur ça, est-ce que l'idée d'un tribunal interne est une si bonne idée que ça?
Ce n'est pas un tribunal. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder, parce que ce sont aussi des procédures qui se sont imposées parce que qui sont nécessaires parce que il y a l'existence de ces violences. Donc c'est quelle modalité on met en œuvre et quelle est notre responsabilité politique et morale vis-à-vis des militants et les militantes et par rapport à ce qu'on défend. Donc non, ce n'est pas un tribunal, ça n'a jamais eu la prétention d'être un tribunal, c'est un comité de suivi, un comité d'écoute où on recueille la parole, les témoignages, où on entend la parole, et puis sur un principe voilà, de base, on assume d'être féministe, de considérer que la parole des femmes, des personnes qui sont victimes, elle est primordiale et c'est elle qu'on écoute et c'est à elle qu'on donne la préséance, parce que le système veut, parce que tout le système fait le contraire et que c'est aussi un principe et une valeur féministe. Et donc voilà, on a écouté et on a pris aussi, parce qu'on a des règles internes, on a une charte d'adhésion, de valeurs, et si on considère, et c'est pas uniquement sur les signalements de violences sexuelles et sexistes, c'est aussi si on considère qu'une telle personne a pris des positionnements qui vont à l'encontre de ce qu'on défend, on peut le dessaisir de ses fonctions ou ne pas lui attribuer telle ou telle mandature. Donc, ce sont des procédures, des règlements internes, comme il y en a dans toutes les organisations, comme il devrait y en avoir peut-être certainement dans toutes les organisations de travail ou d'associations, etc. Donc, c'est une procédure interne. Ensuite, la justice, nous, on s'est suffisamment battu pendant ces 5 dernières années pour que la justice soit à l'écoute des victimes, pour que la justice les accueille et fasse en sorte que les gens puissent aller porter plainte, que ce soit pour des questions de violence sexuelle, mais aussi pour les questions de discrimination, mais aussi pour des questions de violence policière. Donc ça, c'est un travail à faire de fond, Et on se bat là-dessus aussi. On se bat pour que les victimes obtiennent réparation. Et on fait ce qui est de notre ressort et de nos responsabilités. Donc, on ne s'est pas substitué à la justice, justement. On a essayé de préserver, y compris la présomption d'innocence. On a simplement appliqué ce qu'on estime être nécessaire pour protéger les personnes qui sont venues vers nous. Et y compris faire en sorte que la personne mise en cause, et aussi les moyens, si elle devait être entendue par la justice, de le faire dans des circonstances les plus normalisées possibles et pas en même temps d'être candidat ou en campagne. Enfin voilà, c'est aussi pour préserver tout ça qu'on a ces procédures. Mais je rappelle, et moi ce qui m'interpelle, y compris quand ça vient de membres de la majorité qui de toute évidence ne connaissent pas ces procédures-là, parce que y compris sur le site du ministère de l'Intérieur, sur tout le travail des associations, oui, on écoute la parole des victimes. Non, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou forcer les gens à aller porter plainte. Non, justement, le travail, il prend du temps, la prise de conscience, elle prend du temps et on doit respecter le rythme et ce que demandent les personnes qui ne veulent peut-être pas parfois que ces affaires soient divulguées dans la presse, qui le feront à leur rythme. On a essayé de respecter cette parole-là avant tout, et nous on assume de maintenir ce cadre-là. Je pense qu'il en faudrait plus partout, dans tous les espaces politiques, associatifs, militants, dans tous les cadres collectifs, si on veut véritablement prévenir et empêcher ces violences systémiques, quoi. Donc voilà. Et oui, c'est terrible parce que oui, c'était aussi le symbole de lutte. Et c'est quand on parle d'intersectionnalité, on est aussi en plein là-dedans d'une certaine manière de l'interaction de la lutte féministe, la lutte antiraciste. Et il faut tenir tous les bouts, quoi. Sinon ça sert à rien ensuite de le défendre en théorie si dans la pratique, quand on a des situations, on se défausse de ses responsabilités, on n'a rien vu, on fait rien ou encore pire, on laisse faire des agissements qui sont contraires à nos valeurs.
Ouais, on a bien entendu votre point de vue. Ali et Amal Bentoutsi aussi, est-ce que cette affaire-là, elle a des répercussions sur le terrain, dans les quartiers ou est-ce que vous pensez que c'est une affaire d'un autre ordre, qui joue sur un autre registre et que finalement, il n'y a pas...
Non, je ne pense pas que c'est des répercussions sur la lutte ou quoi que ce soit, parce que, comme le dit Daniel Obono, ils ont pris un principe, le principe de précaution, et c'est très bien. Et contrairement au gouvernement, la majorité, quand on a un ministre de l'Intérieur qui est lui-même accusé par des victimes de violences sexuelles et qu'il est aux fonctions de ministre de l'Intérieur, c'est le bon exemple à avoir, et je pense que la France Insoumise l'a fait, et c'est important d'entendre effectivement la parole des victimes et au-delà de ce que pouvait représenter Tahabouaf, c'est un principe de précaution et que c'est important de le prendre à ce moment-là.
Ali, voilà.
Moi, je pense que non, si l'affaire elle aurait été restée en tout cas au stade des attaques racistes qui ont conduit au communiqué de Tahabouaf, forcément, ça aurait eu un impact parce que moi, en tout cas, j'avais estimé à l'époque qu'il n'avait pas été en tout cas soutenu autant qu'on aurait pu l'espérer. Je pense notamment à un passage d'Adrien Quatennens sur BFM TV qui limite, c'est comme s'il ne le connaissait pas à l'époque. Là, on lui remettait en question son investiture. En tout cas, Fabien Roussel commençait à distiller des éléments de langage pour revenir sur l'investiture de Tahabouaf. Ensuite, oui, il y a ces accusations. Moi, je pense que, et je l'ai même salué, que j'avais même pas connaissance de la création de cette cellule spécifique à la France Insoumise, mais à d'autres partis aussi, mais d'autres n'en ont pas. D'autres n'en ont pas, et d'autres organisations, au-delà des organisations politiques, n'en ont pas non plus. Donc, je trouve que c'était une bonne chose. Après, c'est quelque chose de très, 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 très délicat, sur lequel on ne peut pas se prononcer comme ça. On ne connaît rien, même là, aujourd'hui, on ne connaît absolument rien de l'affaire en tant que telle. Moi, simplement, c'est simplement apporter notre totale et entière solidarité, sans aucune ambiguïté, aucune, aux victimes, en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, celles qui se sont présentées, celles qui se sont, les plaignantes, en tout cas, celles qui se sont présentées vers la France insoumise. Et je pense que si elles se sont présentées vers la France insoumise et pas dans un commissariat, ça indique aussi certaines choses, hein. Faut pas le nier. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'elles ont quand même...
Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça indique quoi, selon vous?
Bah, je pense que voilà, aujourd'hui, avant même la France Insoumise, elles ont pris attache avec Caroline Dehaas, je crois. Ensuite, voilà, des figures comme Clémentine Autain, Mathilde Panot et peut-être même Daniel Obono ou autres. Je pense que voilà, elles croient au combat que portent ces femmes-là par rapport au féminisme, etc. Je pense qu'elles avaient. Je pense qu'il est beaucoup plus. Quand on sait. Encore dernièrement, qu'une femme victime de violences conjugales a été insultée de grosses putes, très clairement par des officiers de police judiciaire. Désolé, mais je suis désolé. À un moment donné, faut appeler un chat un chat. Et les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient, ont beaucoup de mal à se tourner directement. Et ça prend du temps, c'est un processus. Et je pense qu'à ce niveau-là, notamment à travers les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu la bonne réaction, notamment de la France insoumise, et que c'est un sujet très, très, très délicat et qu'il ne faut pas prendre à la légère ces sujets-là. Il ne faut pas presser les gens à ce qu'ils s'expliquent, etc. Et voilà, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'impact. Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas ce que je perçois à l'extérieur en discutant avec les gens. Bien évidemment, qu'on est déçu. Que Tahabouaf ne puisse se présenter, mais aujourd'hui, voilà, lui-même, la présomption d'innocence existe aussi. Je pense qu'il faut quand même qu'elle soit rappelée, mais que de l'autre côté, voilà, à la fois pour les victimes, je pense qu'il est nécessaire que voilà qu'on prenne qu'il y ait du recul quand même et qu'on préserve et qu'on protège ces victimes-là, qu'on les accompagne. Après, il n'est pas question d'encourager ou pas encourager, mais vraiment d'accompagner les personnes, d'être là et d'avoir une écoute. Et puis pour ça, voilà, il organisera sa défense si tant est que cette affaire aille plus loin, notamment au niveau de la justice. Et puis voilà, après on espère que ce genre d'affaire soit accompagné de la même manière, en tout cas qu'on voit se développer dans toutes les institutions, dans toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, de grande ampleur, ce genre de cellules d'éveil, de cellules d'accompagnement. Je pense que c'est important parce que voilà, les femmes, malheureusement encore aujourd'hui en France, en 2022, sont quand même excessivement discriminées quand il s'agit de ces comportements déviants de la part du sexe opposé notamment. Et parfois même d'institutions et de politiques. C'est une réalité.
Alors, Daniel Abouno, vous parliez il y a un petit moment d'une question politique centrale qui est celle de la formation d'un bloc populaire qui permettrait justement d'emporter des victoires politiques, cette fois-ci décisives, quand on voit que Mélenchon a raté finalement d'une très petite marche la présence au second tour. Bon, évidemment, c'est le genre de questions sur lesquelles maintenant on doit se recentrer. Alors, il y a un député de votre groupe, qui est François Ruffin, qui s'est exprimé sur la stratégie politique dans Libération juste après le premier tour. Et il a dit, ça nous ramène à la question de ce soir, il a dit... Je résume son propos, il a dit que finalement la France périphérique, la France pour aller vite des gilets jaunes, avait été moins écoutée, moins au centre de la campagne de la France insoumise. Il n'a pas dit le mot négligé, mais enfin c'était un petit peu l'idée. Je vais citer une ou deux phrases de Ruffin sur ce point. Il dit « La France périphérique, celle des bourgs, n'apparaît pas comme une priorité ». Quand on regarde les statistiques issues des urnes, c'est là qu'on plonge. Pour les quartiers populaires, ça fait des mois, voire des années qu'on leur parle. Bon, ça, des années, je trouve qu'il va un peu vite en besogne. Avec des thématiques où ils se reconnaissent, parfois clivantes, comme la police, par exemple. Les campagnes Les campagnes populaires exigent le même effort et en vérité 10 fois plus d'efforts pour 10 fois moins de rendement parce que l'habitat y est plus éclaté, parce que le vote Le Pen y est ancré. C'est pour moi un objectif électoral et aussi moral. On ne peut pas abandonner ces gens-là au Rassemblement national. Je vous pose la question, Danielle Obono, parce que politiquement, elle est centrale. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un deux poids, deux mesures pendant la campagne? Et est-ce que vous pensez, au-delà des querelles, qu'une alliance pourrait se faire autour des thématiques de pouvoir d'achat, de défense des services publics, de pauvreté, finalement, de masse en train de se mettre en place, et au-delà de ces clivages ethniques, communautaires, etc.
Non, je pense pas. Je pense que, y compris ce que j'entends, c'est une discussion qu'on a eue avec François, avec d'autres camarades, de fait, qu'on a ensemble sur ce que je disais. Notre objectif, ça a toujours été de faire basculer le bloc des abstentionnistes, ce qu'on dit aujourd'hui être le quatrième bloc invisible autour de celui qui s'est un peu constitué au premier tour. Et effectivement, il y a une partie de ces classes populaires, parce que pour moi, c'est pas voilà. Dans ce bloc populaire, dans ce nouveau pôle populaire, il y a une alliance entre les classes moyennes, précarisées et autres, et les classes populaires. Et dans les classes populaires, il y a une diversité de situations. Je pense que, et c'est une réflexion qu'on a, et on se pose des questions, et François le fait, l'a fait là dans cet entretien, mais c'est des questions qu'on a. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? On s'était posé ces questions-là pendant vous évoquiez le mouvement des Gilets jaunes, et je crois quand même que, même si ça ne s'est pas traduit automatiquement ni aux élections, les élections suivantes après le mouvement, aux élections européennes, parce que je pense que c'était sur une autre dimension, là, peut-être un peu, quand on regarde un peu, quand on affine dans les profils de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, quand même, il y a des catégories qui correspondent en partie à celles représentées dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais on s'était posé ces questions-là et on avait pris position quand même très clairement. Je crois qu'on a été une des forces qui, très tôt, a été tout de suite sur la base des revendications. Et encore une fois, pour moi, c'est ça le socle, et c'est ça qui permet d'unifier des revendications de justice sociale, etc. Donc, on a été dans ce mouvement. Mais c'est vrai que, oui, on est plus faible, et il faut savoir le reconnaître, on est plus faible sur certains terrains que d'autres. Tout en se rappelant ce que je disais au départ et ce que, auquel Amal et Ali ont aussi rappelé, c'est qu'aucun vote n'est acquis. Ce n'est pas parce qu'on a, eu ce résultat-là dans une partie des classes populaires, ceux des quartiers, des centres urbains et autres, que ça y est, c'est bon, en gros, cet électorat, il est gagné, on peut le considérer comme acquis. Moi, je ne crois pas qu'on puisse réfléchir de cette manière, ni les opposer d'ailleurs, parce que en plus, je rappelle que dans la France ultra-périphérique, il y a aussi des quartiers populaires, il y a aussi des quartiers de banlieue, de petites villes, etc., que la composition socio-culturelle est beaucoup plus mixte et mélangée qu'on croit. Et je crois aussi que, oui, il y a des questions transversales, il y a des questions de fond sur la situation et la condition économique et sociale. Je pense par exemple à une question sur laquelle moi j'ai vraiment envie de travailler sur ce mandat-là, la question de la dématérialisation, la question de l'accès aux services publics. C'est une question dans une circonscription, dans le 18e arrondissement, en plein cœur de Paris, intramuros, il y a des milliers de personnes, des classes populaires qui n'ont plus accès aux droits parce qu'on les renvoie sur Internet. Et ça, c'est une réalité qu'on trouve dans le Gard, qu'on trouve cette fracture-là numérique accentuée. Ce sont des questions qui dont il faut qu'on trouve une expression qui parle à tous ces… qui fédère, en fait, toutes ces classes. Donc, c'est un défi et on a avancé sur certains points, on est encore des faiblesses sur d'autres, mais moi, je ne les vois pas comme une opposition. Et je pense que le questionnement de François, il correspond aussi à sa réalité de terrain, à ce qu'il voit concrètement, au fait que la bataille contre l'extrême droite, ce faunet du système qui prétend être anti-système et qui continue à obtenir des votes de ces classes populaires et reste une bataille importante, et je pense que ça nous rappelle à ça. Donc c'est aussi des alertes, mais pour moi, il ne s'agit pas d'opposer les populations. Je crois qu'il y a des intérêts objectifs communs, des réalités communes, beaucoup plus de convergence, de similitudes qu'on ne le croit, et c'est à nous, c'est notre travail politique, de militants et d'élus, que de les traduire en propositions fédératrices, quoi. Et là, il y a du boulot. Et moi, je crois voilà, que si on veut réaliser ce bloc, de toute façon, on n'a pas le choix que d'avancer là, d'avancer dans ce sens-là, quoi.
Pas mal, Bantouti, on va bientôt terminer cette discussion. Est-ce que vous pensez que la NUPS peut vraiment transformer l'essai en juin prochain et nous donner une grande force politique populaire avec l'appui des quartiers? On ne vous entend pas.
Voilà. Bah, on l'espère puisque même si on a été déçu par les décisions qui ont été prises et par ce qu'on a pu évoquer, que ce soit Ali ou moi, sur cette convergence avec les socialistes qui nous ont trahis, on aspire à ce qu'on puisse, tous ensemble, oui, remporter ces élections-là. Après, que politiquement aussi, que ça nous serve de leçon à tous les acteurs, notamment dans les quartiers populaires, que ça fait des décennies qu'on attend toujours après l'autre et qu'on doit s'organiser politiquement et ne plus attendre des autres. Parce que le constat, il est amer. Le constat, il est amer, et je crois qu'on doit aussi se faire une autocritique sur nous-mêmes et de notre incapacité à nous, des gens des quartiers populaires, à s'organiser politiquement. Et je crois que ça, c'est une question très importante. Et qu'on doit rendre hommage, bien évidemment, à tous ceux qui nous ont précédés. Moi, je pense notamment dans les luttes qui ont été organisées au CCIF, qui a été dissous il y a quelques temps de cela. Mais il faut aussi rappeler ce qui a été incarné dans les deux grandes marches de la dignité en 2015 et 2017. Et pourquoi à ce moment-là où nous étions forts politiquement, je pense que ça a eu quand même un vrai impact, parce que d'ailleurs on avait rencontré les gens de la France insoumise à ce moment-là. Et je regrette qu'à ce moment-là, on n'ait pas eu cet engouement, comment on n'a pas réussi en fait. Donc on doit critiquer ce qui se passe en face de nous, mais on doit s'autocritiquer comment ça se fait qu'on n'y arrive pas. Donc, bien évidemment, nous, pour notre part, on soutiendra les élus de la France insoumise, mais les élus, quoi, ceux qui se présentent en toute autonomie, et c'est important de les soutenir et qu'on ne doit pas s'arrêter à ça, que ce ne soit pas. Que cela ne soit pas une querelle qui puisse avorter notre objectif, c'est-à-dire d'avoir la majorité des députés, qu'ils soient France insoumise ou autonome, des gens des quartiers populaires qui se présentent. Il est important qu'on puisse avancer en toute intelligence, mais ne pas oublier, et comment on fait pour s'organiser pour les 5 ans à venir aussi. C'est important de le dire.
Ali, donc vous vous présentez, je vous rappelle, aux législatives pour la Seine-Saint-Denis au cœur, donc sans étiquette NUPS et avec deux candidats PC en face de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez porter à travers cette candidature? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en juin prochain?
Nous, c'est un peu comme c'est un peu ce qui a été fait notamment en marge de l'élection présidentielle. Hein, C'est le regard citoyen qu'on souhaite impulser, le recul de l'abstention, la vulgarisation de la vie publique, la chose politique pour les habitants des quartiers populaires à travers nos candidatures, qui je le rappelle, là, on n'est pas notre première candidature, puisqu'en 2021, on a proposé des candidatures sur 3 cantons de la Seine-Saint-Denis avec des scores en moyenne de 15%, dont un accès au second tour, qui n'est jamais arrivé en France pour une liste citoyenne. Donc, en plus, face au président sortant du département, donc ce n'est pas rien, qui est socialiste et dans la NUPS, d'ailleurs. Mais bon, c'est un passant. Mais au-delà de ça, oui, comme le disait Amel, nous, on souhaite que l'élan populaire, au-delà même de ma circonscription, se concrétise par le maximum de députés de gauche, foncièrement à gauche, et pas ceux qui profitent par opportunisme d'une stratégie politique qu'on peut entendre, à laquelle je ne souscris pas moi personnellement, mais qu'on peut entendre. Et voilà, on espère que pour eux, en tout cas pour ces députés-là, en tout cas qui sont très opportunistes, bah, que moi, j'ai pas envie de voir de députés PS, je suis désolé, ça me dérange profondément, même viscéralement. En revanche, voilà, j'ai toujours dit que les députés insoumis, quand bien même voilà, j'entends le parachutage, etc., on ne va pas être d'accord sur ça, mais voilà, j'ai toujours dit qu'ils avaient fait le job, en tout cas à l'Assemblée, et heureusement qu'ils étaient là, parce que c'était très compliqué ces dernières années. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines et qu'on a limité la casse sur un certain nombre de sujets. Cela étant dit, voilà, aujourd'hui, l'ANUPS, au regard de ce qu'elle permet en termes de représentativité, voilà, on est loin de ce à quoi on espérait, ce à quoi on aspirait. Mais voilà, au-delà des égos, il ne faut pas. Voilà, moi, je ne parle pas pour moi. Ici, voilà, on a un contexte très particulier pour ma circonscription et même pour d'autres en Seine-Saint-Denis. Mais au-delà de ça, je pense que voilà, ces candidatures citoyennes ont le mérite d'exister, doivent être soutenues par la population, par les habitants des quartiers populaires, encore plus que l'accoutumée, et que j'espère qu'elles permettront de rétablir un peu un rapport de force beaucoup plus équitable entre les différentes forces politiques. C'est tout ce qu'on souhaite. Après, de l'autre côté, bien évidemment, qu'on ne souhaite pas... voilà, on a quand même voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Moi, je ne crois pas trop au truc du troisième tour, parce que je ne crois pas en la formule en tant que telle, mais je crois qu'à un moment donné, cet élan, parce que la Ve République permet cela, bah, doit pouvoir accoucher d'une représentation nationale beaucoup plus en phase avec les aspirations aujourd'hui des Françaises et des Français. Après, voilà, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux comme... qui ont été rappelés par François Ruffin, par Daniel Obono ici, même si je pense qu'il ne faut pas opposer, et même par Auriane Boutelja encore récemment, qui l'évoquait. Hein, bon, elle a utilisé une formule qui a un peu choqué, les petits blancs, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut entendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en termes de... C'est pour ça que j'aime pas trop la représentation un peu exotique des quartiers populaires où ce serait que des Noirs et des Arabes. Non, en fait, les quartiers populaires, c'est une concentration de personnes, d'habitantes qui vivent des injustices sociales profondes, structurelles, des discriminations excessives. Et c'est ça, les quartiers populaires, au-delà même des représentations ethniques, alors qu'en France, on n'a pas de statistiques ethniques. Donc, je pense que c'est important de le dire, et j'espère que la France insoumise, foncièrement, fera sa mue aussi autour de ces questions-là, parce qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je sais qu'il y a beaucoup de combats en interne aussi qui se passent sur ces sujets-là. Mais voilà, à un moment donné, localement, le parachutage, ce n'est pas possible. Dans des localités comme la Seine-Saint-Denis, ce n'est plus possible. On ne peut pas. Et partout en Île-de-France, hein, peut-être que des choses sont plus acceptables ailleurs, mais ici, on n'en veut plus, en fait. Et c'est pour ça que je pense que les représentations, en tout cas, ce qui va accoucher de cette élection, ne sera pas forcément de même nature qu'au présidentiel. Je ne crois pas, parce que voilà, il y a d'autres forces qui se présentent. Et même si on souhaite que voilà, qu'il y ait une union beaucoup plus large, un bloc populaire, si on veut, ben, on espère que la France insoumise, parce que c'est elle qui a quand même pris cette responsabilité-là et qui l'a. Au-delà de l'adhésion, pas l'adhésion, on espère qu'elle pourra impulser cette dynamique en respectant clairement aussi la représentation, les représentations dans les quartiers populaires, les forces vives de ces quartiers populaires, et qu'on donne véritablement la parole aux quartiers populaires, à leurs représentants qui sont légitimes, qui vivent ici. Parce que moi, désolé, hein, Vous disiez, Madame Gounod, tout à l'heure, qu'on n'est pas député d'une circonscription. Ben, en fait, si, on est député d'une circonscription, quand bien même on représente la nation, on est député d'une circonscription. Je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux choses-là, bien évidemment. Et je pense que, voilà, parce qu'on est député d'une circonscription, voilà, nous, ici, localement, par exemple, j'ai eu la surprise d'avoir les députés de ma circonscription n'ont pas répondu à un appel d'une situation d'urgence sociale ici et sanitaire. Et ça a été Bastien Lachaud, qui est député de la France Insoumise dans une autre circonscription, qui a répondu. Et je pense que c'est important d'avoir ces députés qui sont foncièrement ancrés sur le territoire pour pouvoir défendre aussi, parfois, même si ce n'est pas leur rôle au niveau de la Ve République, de parfois défendre des sujets très locaux, parce que c'est important. Et vous savez très bien que les jeux de pouvoir localement, tout à l'heure je disais que localement, la gauche nous fait beaucoup de mal, c'est une réalité. C'est une réalité et ça, on ne peut pas le nier. Donc,
merci. Merci Ali Diwara, je pense que le message est bien passé. Je vous remercie tous les trois pour cette discussion très intéressante. On suivra bien entendu vos campagnes, hein, Daniel Ogono à Paris et vous, Ali, en Seine-Saint-Denis. Amal Bentounsi, vous avez, nous avons les moyens de vous aider, de vous soutenir.
Oui. Il y a des dates très importantes. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a des dates très importantes à venir parce que depuis quelques années maintenant, des collectifs, des familles réclament la justice. Donc, c'est important de rappeler quand la justice quand la justice est présente et répond présente quand il s'agit de policiers. Le 24 juin, il va y avoir le procès des policiers qui ont tabassé Sofiane sous un porche pendant le confinement. Donc, c'est une affaire qu'on a suivie. Notre association elle s'est constituée partie civile aussi dans cette affaire. Et il y a l'affaire d'Amadou Koumé, donc les policiers qui ont causé la mort d'Amadou Koumé. Donc Amadou Koumé, c'est un père de famille qui a été étranglé. C'est le même cas que George Floyd. Et c'est important qu'on se mobilise quand la justice répond présente, ce qui est rare. Et donc il faudra être présent et soutenir ces familles-là. Parce que la police ne doit pas être au-dessus des lois et qu'on ne peut plus accepter des condamnations à du sursis uniquement.
Merci à tous les trois. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que QG est un média à 100% indépendant qui n'est adossé ni à un actionnaire ni à un parti, qui ne dépend que de vous, et c'est pour cela que nous pouvons organiser des soirées telles que celle-ci, donner la voix à des paroles différentes. Je vous invite donc à nous découvrir et à nous soutenir sur QG.media. Merci à tous et bonne fin de soirée.
Merci.
Merci.
Bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.
Bon courage.